Au commencement était la parole, nous dit l'Évangile. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En elle est la vie, la lumière des humains. Et la parole a pris chair. En nous, elle a planté sa tente, pleine de tendresse et de fidélité. C'est ainsi que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu nous sont données, sans condition, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quel que soit votre parcours de vie, Dieu vous bénit et vous accompagne avec tendresse. Alors que ce temps de culte, ce temps de recueillement, ce temps de contemplation et de louange soit ainsi une ouverture à cette parole. Merci d'être là, merci d'être venu, bravo pour cet élan, cette soif, cet esprit de corps. Alors je vous propose de faire monter notre louange vers Dieu avec cette méditation d'Anne-Christine Menu. Dans le silence intérieur, lorsque les bruits de l'âme s'apaisent, tendre l'oreille vers l'univers. Écouter le chant des étoiles, le murmure des atomes, le bruissement du souffle créateur. Écouter la fleur se déployer au premier rayon du soleil, la rosée qui goutte sur le fil d'un brin d'herbe, le frémissement des feuilles du grand être. Écoutez les grains de sable s'entrechoquer au passage de la vague, le coquillage se briser sur le rocher, le caillou être doucement poli par l'eau des torrents. Écoutez la vie qui palpite à l'intérieur, les battements de son cœur, la symphonie du vivant et le souffle de Dieu. Alors je vous propose, pour poursuivre notre louange ensemble dans le chant, de prendre le numéro 67 de notre psautier. C'est le psaume 138. « De tout mon cœur, je viens chanter ». Numéro 67. En Christ, l'amour de Dieu pour nous a vraiment été manifesté. Il nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour votre âme. » Alors c'est fort de cette promesse qu'en toutes circonstances, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour lui demander son pardon et pour lui demander son aide pour avancer. C'est ce que je vous propose de faire en méditant ce psaume. Écoute, Éternel, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Alors oui, c'est ta face, ô Éternel, que je cherche. Ne me cache pas ton visage. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu es et tu seras toujours mon secours. Alors ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut. Même si père et mère m'abandonnaient, l'Éternel, lui, me reçoit et me garde. Montre-moi ton chemin, ô Éternel. Conduis-moi par des routes sûres, malgré ce qui me guette. Ne me livre pas à la merci de l'ennemi. Mais, j'en suis sûr, je verrai les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère l'Éternel. Sois fort, prends courage. Espère l'Éternel. Et recevons au plus profond de nous-mêmes cette certitude du pardon de Dieu avec ces mots du prophète Ésaïe. Une femme oublierait-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas plutôt compassion de l'enfant sorti de son ventre? Mais quand elle l'oublierait, moi, l'Éternel ton Dieu, je te resterai fidèle. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Et effectivement, en Christ, cet amour de Dieu pour nous a été manifesté. Il se penche vers nous et nous dit « Mon enfant, tes péchés ont déjà été pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Avance dans la paix. » Nous chantons notre reconnaissance avec le cantique 392 « Il faut qu'en Dieu l'on se confie. Dans le cadre de cette série de prédications sur contemplation et recueillement, je vous propose d'entendre trois textes du Nouveau Testament. D'abord, un texte très connu, bien entendu, dont je ne vous lirai qu'une partie, de Jésus-Christ selon Matthieu. Jésus dit, « Toi, quand tu pries, ferme la parole, ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait très bien de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté advienne sur la terre comme au ciel. » Et nous réciterons la suite tout à l'heure. Ensuite, un deuxième texte, c'est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, au chapitre 12, un passage où Jésus nous dit d'écouter Dieu, de l'aimer et de l'écouter avec intelligence. Voici le premier commandement, nous dit Jésus. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Et puis enfin, un verset de la lettre de Jacques. Parce que le Père des Lumières en a décidé ainsi, il nous a fait naître par une parole de vérité, pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, chacune et chacun, à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Se recueillir, s'arrêter un instant, prendre en main sa vie intérieure pour prendre en main sa vie tout court. C'est aussi important que de savoir ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire, ce que nous allons faire. Alors ce n'est pas plus important, mais c'est aussi important, parce que ça fait un tout. Entre dans ta chambre et ferme la porte. Nous conseille Jésus. Laissons dehors nos distractions, laissons les autres pour un temps leurs conseils et leurs opinions. Ce n'est pas pour nous dépréoccuper comme on conseille souvent aujourd'hui, c'est au contraire pour nous soucier de notre intériorité. Ce n'est pas faire le vide en soi-même. Mauvaise idée, nous dit Jésus, de faire le vide en soi-même. Il explique dans une parabole que quand on fait le vide en nous-mêmes, il est bien possible qu'on arrive comme ça à chasser un démon qui nous perturbait, mais que ce ne sera que pour un court instant. Le vide va vite attirer le retour de ce démon qui va venir avec sept autres copains pour danser à l'intérieur de notre être. Il ne s'agit donc pas de faire le vide, mais au contraire, d'ajouter soi-même à ce qui est à l'intérieur de nous. parfois trop vide justement, parfois encombré de démons et d'une sorte de fatras, mais aussi qui est plein de merveilles. C'est ça le recueillement. Entrer en soi-même pour aller visiter avec détermination notre intériorité. C'est la première étape, la base de la base. Une pratique quotidienne comme de manger, de boire, de dormir. Pas besoin d'être croyant pour ça. Au contraire, dirais-je. Car quand on est croyant, au moins, on a cette confiance que nous sommes gardés de toute façon. Et nous savons que notre vie a un prix, même si nous n'avons pas encore vraiment pris la peine de nous interroger sur le sens en particulier que notre vie pourrait avoir. Alors que quand on n'est pas croyant, on est seul, seul dans notre intériorité, à chercher à faire du sens un petit peu et un peu de rangement. Seul pour fonder ce qui fait que notre vie sera digne d'être vécue. Donc, croyant comme non-croyant, il est très utile d'apprendre à se recueillir. Et pour ça, il est favorable de commencer tout jeune à apprendre ce geste, mais ensuite, ce n'est jamais trop tard, bien sûr. Entrer dans sa chambre la plus reculée, la plus intime, et fermer la porte, nous dit Jésus. Alors, ce n'est pas simplement une image pour dire de rentrer en nous-mêmes. C'est aussi un moment à prendre dans notre agenda. C'est un geste pratique consistant effectivement à couper un instant nos distractions si agréables et si amusantes. Ne pas les remplacer par de la musique. S'isoler un moment, car ce que nous avons à faire ne regarde personne. Et surtout pas un directeur de conscience. Apprendre à explorer nous-mêmes notre intériorité. Aller au plus intime, comme nous le propose Jésus. Visiter les recoins, parce que c'est là que se cachent les araignées fondant leur petite famille. Mais dans cet espace intérieur, il y a aussi des parties qui nous font honte. Il y a aussi plein de choses belles et merveilleuses que nous ne connaissons peut-être pas encore assez, que nous n'avions peut-être pas encore assez valorisées. Il y a aussi des peurs, il y a du chenil, comme on dit à Genève, il y a de l'espérance que nous n'avions pas encore osé formuler. Tout ça mérite d'être visité, bien sûr. Au moins le visiter. Et si possible, ensuite, essayer de décrire en quelques mots ce que nous avons trouvé, c'est déjà un bon départ, une analyse. Et puis, à notre surprise, car cela nous dépasse complètement, en visitant cette partie la plus intérieure, la plus intime de notre être, comme nous y invite Jésus, que nous soyons croyants ou non, à vrai dire, nous avons bien des chances de trouver en nous quelque chose d'infiniment plus grand que nous. Car depuis que l'humain est un peu plus conscient qu'une sorte de singe, l'humain ou les humanoïdes de toute race qui existaient alors, sapiens, néandertaliens, dénisoviens, l'humain commence à découvrir par ce travail d'intériorité que nous avons une dimension spirituelle qui transcende la simple survie de notre corps. Et ces humains commencent à enterrer leurs morts et à chercher à se tourner vers ce plus grand que nous qui est dans l'invisible et à l'explorer. C'est là que notre recueillement est invité à s'arrêter un instant dans la contemplation. La contemplation, c'est plus que de pénétrer le monde des idées ou des théories profondes de l'univers, comme nous y invitent les philosophes et les scientifiques. La contemplation, c'est considérer un instant cette réalité qui est en nous et qui est plus que nous, qui nous dépasse. Ensuite, nous pouvons essayer, là encore, de mettre quelques mots sur ce que nous contemplons. C'est ce que Jésus nous montre dans sa fameuse prière en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Ça fait seulement deux mots en hébreu, « Abinu Sheba Shamaim ». C'est l'expression de sa contemplation et c'est un exemple qu'il nous donne, c'est-à-dire une invitation à notre propre contemplation, à forger ensuite une théologie expérimentale à partir de ce que nous avons discerné. « Abinu », dit Jésus, « notre Père, si proche que j'en suis le portrait tout craché, si familier et qui me donne la vie. » En même temps, ce Père si proche, c'est « Sheba Shamaim », dans les cieux, d'une toute autre dimension que moi, que nous. Et c'est ce paradoxe qui est puissant à contempler. Comme un amour infini qui se soucie de nous, nous dit Jésus. Comme une espérance au-delà du visible, ajoute Paul. Et cela est touchant au point de nous donner la foi, de fonder une confiance dans cela. Au point de reconnaître aussi que mon prochain est de la même famille que moi, car il est lui aussi enfant de ce Père de nous tous. De ce Père tout autre, et pourtant si proche, si intérieur. Cette contemplation devient alors une prière, s'adressant au Père, à celui qui nous donne la vie, en le tutoyant. Alors remettre au centre de notre vie, en devenir, remettre au centre cette relation à cette transcendance. À ce Père. Donc le recueillement porte d'entrée la contemplation et la prière. L'éducation de tout enfant devrait comprendre ce travail sur son intériorité, qu'est le recueillement, que la famille soit athée ou soit croyante. L'initiation à la contemplation peut se faire en quelques mots rappelant l'amour infini de Dieu pour nous. Qui permet de fonder une confiance, ce Dieu qui nous aime. Avant même de commencer notre prière quotidienne du soir, par exemple. C'est vraiment une façon, je pense, d'aider l'enfant à visiter son espace intérieur et à prendre sa propre vie en devenir, en main. Alors c'est bon à tout âge de la vie. Comme le dit Jésus ici, le retour sur cet investissement de quelques minutes est incroyablement puissant en termes de développement personnel. Votre Père, dans le secret, vous le rendra infiniment plus. Il ne s'agit donc pas de lâcher prise, bien sûr. Il s'agit au contraire de prendre notre vie en main et son devenir en buvant à la source de vie, en choisissant de boire à cette source. Donc après le recueillement, la contemplation et la prière, vient l'écoute. Écoute le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un, nous dit Jésus-Christ. Et quand il dit cela, il cite l'essentiel, « Chema Israël », répété plusieurs fois par jour par le juif pratiquant, fixé sur le montant droit de toutes les portes principales de sa maison, la porte d'entrée, mais aussi la porte de sa chambre à coucher, de sa salle à manger, de son bureau. Écoutez Dieu à la fois comme amour infini qui nous porte et comme créateur au-dessus de nous. Écoutez cette parole divine qui nous fait naître à la vie, nous dit Jean dans son prologue que je vous ai lu en entrée, ou que nous dit Jacques aussi dans sa lettre. C'est la contemplation et c'est plus que la contemplation. C'est la prière et c'est plus qu'une prière où nous faisons le point devant lui, éventuellement partageant nos préoccupations et nos espérances avec lui. C'est décider de boire à cette source qu'est Dieu pour naître et pour grandir à la vie. Dans notre prière, cela ne durera peut-être qu'une fraction de seconde, une intention peut-être seulement. L'écouter. L'écouter et l'aimer, nous dit Jésus dans le chemin Israël, en citant le chemin Israël. Lui faire place dans les différentes dimensions de notre être. Dans notre cœur, nous dit le chemin Israël, pour nous recentrer. Dans notre âme, pour évoluer, cheminer. Et dans nos forces, pour faire un tant soit peu un peu de bien autour de nous, à l'image de notre Père qui est dans les cieux. Écoutez l'Éternel notre Dieu. Écoutez l'Éternel notre Dieu, mais pourtant il n'a pas de bouche pour parler. Point de vibration dans l'air quand nous écouterons sa parole. Un enregistreur n'enregistrerait rien. C'est en nous qu'il parle, dans la profondeur de notre être, dans cette intériorité, d'où l'importance de cette démarche du recueillement. La difficulté, c'est que, au fond de nous-mêmes, de nombreuses voix s'expriment et que plusieurs de ces voix excellent à se faire passer pour la voix de Dieu. Nos instincts que nous partageons avec bien des animaux et même avec les végétaux. Nos idées, nos rêves, nos blessures anciennes qui se manifestent comme elles peuvent, peut-être aussi l'impression provoquée par un reportage vu la veille ou par une lecture que nous avons faite ou une parole que nous avons entendue. Comment faire le tri ? Ben, c'est un travail de discernement fondamental dans le recueillement, dans la contemplation, dans la prière. Mais aussi, c'est un travail de l'intelligence, nous dit Jésus. Il ose ajouter à ce chemin Israël que tout le monde connaissait par cœur le fait de devoir aimer Dieu avec intelligence. L'intelligence, ici, c'est la dianoïa, chère aux philosophes grecs, à Platon, à Aristote et à bien d'autres. C'est un dialogue intérieur critique, posant des hypothèses, cherchant des arguments, pesant le pour et le contre avant de faire notre choix personnel. Cette démarche, c'est tout ce qui fait horreur au fascisme, aux idéologies, aux intégrismes de tout temps, de toutes sortes, religieux ou non. Notre intelligence, elle se forme dans le dialogue avec les autres, dans l'observation du monde, aussi du monde invisible, par la prière, par le sentiment, par l'art. Ça se forge aussi dans la lecture des textes propres à nourrir cette intelligence. La Bible fait partie des champions, des livres, pour développer cette intelligence du discernement et de la vie, mais pas seulement, bien sûr. Et c'est sur ce point que le catéchisme peut apporter une aide essentielle aux jeunes et aux adultes. Ensuite, pour être authentiquement dans l'écoute, il est intéressant de faire cette écoute et ce discernement, cette réflexion par l'intelligence, de faire ça dans la solitude. Car c'est là que nous pourrons écouter ce que Dieu cherche à nous dire, à nous en particulier, cœur à cœur. C'est là que nous devrons élaborer avec lui notre propre vocation. Le recueillement, l'amour, l'intelligence, c'est ce qui fait l'écoute authentique de cet acte de fidélité que Dieu nous adresse et par lequel il nous fait naître et grandir aujourd'hui à la vie. Un grand merci pour cette pièce de l'anglais. Et donc, je vous propose de poursuivre cette méditation dans le chant du cantique numéro 211. Dans ta parole, ô Dieu, je puise force et vie. Elle est sur mon chemin le guide et le flambeau. Cantique 211, je vous propose de chanter les quatre strophes.
Nous intercédons auprès de Dieu. Dieu juste et miséricordieux, nous te remercions de nous avoir donné l'Église comme mère spirituelle, qui nous offre la parole de vie, le baptême et la Sainte Cène. Renouvelle ton Église. Ramène-la toujours à ta parole et à ta mission. Préserve-la de la tentation de vouloir s'isoler du monde et de se suffire à elle-même, mais aussi de la tentative de vouloir plaire au monde. Que ses membres continuent à être la lumière du monde et le sel de la terre. Donne-lui l'intelligence de trouver les mots justes et nécessaires pour notre temps et d'annoncer l'Évangile du Christ avec assurance et courage. Nous te prions pour notre communauté au sein de laquelle nous essayons de cerner ton mystère et d'accueillir ta bonté. Nous te prions pour elle et aussi pour toutes les églises protestantes de notre pays, mais aussi pour toutes les autres confessions chrétiennes, et au-delà pour tous les êtres humains de bonne volonté, afin que tu continues de les bénir. Nous te prions pour notre pays, pour celles et ceux qui assument des responsabilités de gouvernance, mais aussi pour nous tous et toutes, concitoyens et concitoyennes, afin que nous poursuivions sur le chemin de la justice et de la paix. Nous te prions pour les parents, afin qu'ils accomplissent avec discernement leurs tâches éducatives et qu'ils favorisent un esprit de valorisation et d'encouragement. Nous te prions pour les maîtres et les professeurs de nos institutions de formation, afin qu'ils éveillent chez leurs élèves le sens de la responsabilité, le respect mutuel, la gratitude et le goût de l'effort pour le bien commun. Nous te prions pour celles et ceux qui font face aujourd'hui au deuil, à la séparation, à la mort, qui ne soient pas engloutis par la solitude et le désespoir, et que nous les accompagnions avec attention, humilité et justesse, sans nous perdre dans de bons conseils ni de fausses consolations. Dieu juste et miséricordieux, accueille nos prières. Amen.
Et nous rassemblons toutes nos prières pour nous-mêmes et pour ceux qui nous sont chers dans cette prière que Jésus nous a confiée et qui fait de nous tous des frères et des sœurs, enfants du même Père que nous avons dans les cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Un grand merci au professeur Andreas Detwiller pour cette prière. Et puisqu'il est aussi conseiller de paroisse, j'en profite pour remercier les conseillers de paroisse pour vraiment ce travail au jour le jour pour animer, faire vivre, organiser cette paroisse. C'est un travail dans l'ombre qui n'est pas très gratifiant, mais qui est indispensable. Donc merci à eux. Un grand merci à Henri-François Velu pour son accompagnement à l'orgue. Il est donc organiste à Aubonne. Donc il a fait le trajet dans ce petit matin froid pour venir nous accompagner et nous réjouir donc avec cette profonde, belle musique d'orgue. À la sortie, si vous le désirez, il y a le texte de la prédication que je vous ai proposé qui peut vous être remis. C'est pour pouvoir en prendre et en laisser, et pas être d'accord avec tout ce que je raconte, mais voilà, essayez peut-être aussi d'en trouver quelque chose et puis peut-être de le donner à une personne que vous penseriez pouvoir être intéressée. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Ce n'est pas simplement pour aider l'Église, bien effectivement, c'est quand même assez utile de pouvoir payer les factures, mais c'est aussi un geste liturgique qui nous permet justement de remettre ce qui nous anime à l'intérieur de nous-mêmes aux commandes des différentes dimensions de notre vie. Et puis nous vous proposons de chanter ensemble le cantique 387. En fait, c'est le texte du psaume 23. Vous savez ce psaume qui est le plus connu des connus. « Le bon berger, le Dieu très haut, est mon gardien fidèle ». grand merci d'avoir participé à ce culte. Vous êtes une bénédiction. Et nous recevons de Dieu sa bénédiction, selon cette formule donnée par Moïse à l'affirmatif et au singulier, pour que vraiment chaque personne se sente bénie, en particulier, indispensable aux yeux de Dieu. L'Éternel te bénit et te garde, toi. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Ô Dieu, notre Dieu, sois béni par toute âme qui respire. Tu es la source de la vie. Amen.